CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende, le podcast qui vous amène à la rencontre de ces histoires complètement folles de ces entrepreneurs. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média, et avec moi, autour de la table, il y a Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Alors Sylvain, aujourd'hui, le nom de l'entrepreneur, on va prévenir les gens évidemment, il va sûrement rien vous dire du tout. C'est normal parce qu'en fait il est relativement méconnu en Occident et pourtant le nom de sa boîte est sur toutes les lèvres quand on parle de smartphone chinois. On parle du fondateur de la société Huawei, Ren Zhengfei.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Ren Zhengfei, alors si on prononce mal le nom, excusez-nous, hein, on n'est pas spécialiste en chinois, enfin toi non plus.
Non, ni toi ni moi.
Donc voilà, bon, on va essayer de faire le mieux que possible, mais bon, excusez-nous. Donc Ren Zhengfei est né en 1944 dans la province de Guizhou.
Oui, donc il est né dans une zone reculée du sud de la Chine, une zone assez montagneuse. Donc il vient d'une famille plutôt aisée et éduquée, ou en tout cas qui l'a été avant la guerre et tous les troubles. Son grand-père avait une usine dans ce qu'on pourrait dire l'agroalimentaire, son père avait fait des études, ce qui était quand même assez rare en Chine à l'époque. Et alors était arrivée donc une guerre civile, la guerre contre les Japonais, l'invasion japonaise. Donc c'est une situation en Chine extrêmement difficile. La Chine à ce moment-là est extrêmement pauvre. Et donc son père était retourné dans sa montagne natale, notamment pour fuir les combats, pour se cacher un peu tout simplement. Il a rencontré donc sa femme, la mère de Ren Zhengfei, qui était une professeure de mathématiques. Donc ils ont eu 7 enfants, dont Ren est l'aîné. Donc au moment de sa naissance, et d'ailleurs les premières années de sa vie, la situation matérielle est extrêmement difficile. C'est vraiment la Chine est extrêmement pauvre, il y a des gens qui meurent littéralement de faim. Mais la famille, c'est une famille qui... On a dit qu'il vient d'un milieu éduqué et qui attache une énorme importance à l'éducation de ses enfants. Donc ils vont toujours pousser leurs 7 enfants à aller à l'école. Ils vont se priver parfois de nourriture pour leur acheter des livres. Et donc Ren Zhengfei a né et a baigné dans un environnement alors matériellement très pauvre, mais culturellement et intellectuellement assez stimulant.
Et d'ailleurs, c'est un élève studieux, hein, qu'il y a de bons résultats, malgré, tu l'as dit, le manque de nourriture.
Oui, donc dès l'enfance, c'est un élève très brillant, surtout en sciences en fait. Il est beaucoup moins littéraire, mais il accroche tout de suite aux sciences, il a d'excellents résultats, il est travailleur, il aime apprendre des choses, il est très curieux. Donc il parvient malgré tout à faire des études, hein, malgré le fait que quand il arrive à l'université, par exemple, il a une chemise et sa mère doit se saigner aux quatre veines pour qu'il puisse avoir une chemise et une tenue un peu correcte pour aller à l'université. Donc là, on est dans les années 50-60, c'est la période du soi-disant grand bond en avant de Mao qui a déclenché une famine terrible dans les campagnes. Donc malgré des conditions matérielles très difficiles, il parvient à intégrer l'université, à étudier notamment l'architecture. Et grâce à cette formation universitaire, en 1974, il intègre l'armée, alors pas dans une unité combattante, mais dans la logistique et l'infrastructure. Et donc il travaille comme architecte dans des industries d'armement, des industries militaires, il conçoit des usines, ce genre de choses.
Il commence donc sa carrière au sein de l'armée.
Oui, donc ce qui est un petit peu normal en Chine à l'époque, puisqu'on est sous Mao, c'est un pays communiste très fermé, donc l'entreprise privée est interdite, ou en tout cas extrêmement, extrêmement réglementée, on ne peut pas du tout entreprendre comme on le fait aujourd'hui en France ou même en Chine. Donc en fait, l'armée, c'était, ou en tout cas la fonction publique, c'était à peu près le seul débouché possible pour un jeune homme audacieux, bien formé, intelligent. Donc c'est pas très surprenant en fait qu'il soit allé dans l'armée, même s'il avait aucun désir d'être soldat en tant que tel.
En parallèle, il va se marier, ce qui va un peu orienter sa carrière.
Oui, il se marie, il aura 2 enfants, dont une fille qui va l'épauler à la tête de Huawei un peu plus tard. Et donc sa femme trouve un emploi à Shenzhen. Et donc au début des années 80, il part pour Shenzhen et il démissionne de son précédent travail dans l'armée. Donc Shenzhen à l'époque, début des années 80, c'est une ville très intéressante parce que le pouvoir communiste chinois expérimente, disons, le capitalisme, notamment à Shenzhen, donc une ville proche de Hong Kong, dans le sud de la Chine. Et le pouvoir communiste chinois, qui se rend bien compte que son modèle de développement ne marche pas, se dit on va expérimenter un petit peu le capitalisme. Donc ils prennent ce qu'on appelle des zones économiques spéciales, dont Shenzhen, dans lesquelles ils libéralisent un petit peu l'économie, ils permettent à des entrepreneurs privés de développer leurs projets. Et donc ils trouvent un premier emploi dans le secteur privé. alors qu'il va très mal se passer pour lui.
Oui, donc c'est la société où travaille aussi sa femme.
Voilà, donc c'est via sa femme qui avait déménagé à Shenzhen qui trouve cet emploi.
Mais lui, il connaît mal le monde des affaires. Quand
voilà,
même.
Donc lui, en fait, il est, disons, un petit peu naïf. Il vient de l'armée où tout est très cadré, très rigoureux. Et il se fait, il est, disons, cadre, on va dire ça comme ça, dans cette entreprise. Et il se fait complètement arnaquer. Il signe les mauvais contrats. Bon, y a quelqu'un qui comprend que lui n'a pas le sens des affaires, ne connaît pas les habitudes dans le monde des affaires. Il l'arnaque. Et alors, non seulement il se fait virer, bon, ce qu'on pourrait attendre, mais en plus, chose qui pourrait me paraître un peu surprenante, il doit rembourser de sa poche. Donc il doit rembourser tout ce qu'il s'est fait arnaquer de sa poche et il est complètement ruiné.
Sa femme le quitte.
Ouais. Donc,
j'ai rajouté. Le...
voilà, tu peux le préciser. Donc en fait, pour lui, c'est la totale.
C'était vraiment pas la bonne idée d'aller à Shenzhen.
C'était vraiment pas la bonne idée, ou en tout cas pas la bonne idée de se lancer dans le monde de l'entreprise privée sans savoir comment ça marche.
Donc pour lui, c'est un peu une sorte de petite descente aux enfers.
Ouais, une belle descente aux enfers. Il est ruiné, surendetté, chômeur et largué par sa femme. Donc c'est vraiment le fond du trou. Au milieu des années 80, il est au fond du trou. Et alors il habite avec ses parents dans un minuscule logement à Shenzhen.
Parce qu'ils sont venus vivre avec lui, c'est
voilà, bon. Alors c'est une pratique assez courante en Chine. Hein, donc c'est pas très surprenant que ses parents soient venus vivre avec lui. Mais enfin, ils ont vraiment un tout petit logement. Il a plus du tout d'argent. Et donc, il est littéralement au fond du trou et il faut qu'il sorte la tête de l'eau.
Et en 1987, du coup, il veut rebondir. Donc, il faut dire qu'il n'est pas très jeune parce qu'il a 43 ans.
Il a 43 ans, oui, quand il crée son entreprise.
Il veut rebondir et il fonde donc du coup l'entreprise Huawei.
Voilà, donc il fonde l'entreprise, c'est pas du tout parce qu'il avait le goût de l'entrepreneuriat, c'est tout simplement parce qu'il se dit, ben voilà, il faut que je trouve un moyen de gagner un petit peu d'argent, que je trouve un travail, et donc il fonde Huawei. Donc Huawei qui veut dire, si on essaie d'une traduction un peu cavalière, c'est la réussite chinoise, hein, Wa la Chine et Wei réussir, je sais pas si je prononce bien, mais bon, il y a cette idée de patriotisme en tout cas, hein, dans le nom de Huawei, c'est
oui, il a quand même l'âme de patriote. Donc,
oui, il a passé tout le début de sa carrière dans l'armée, donc il a cette âme de patriote. Et donc Huawei, au début, c'est une société très modeste qui fait du commerce, donc il vend des produits électroniques, un peu tout en fait. Vraiment, l'objectif à cette époque pour lui, c'est juste de gagner un peu d'argent pour se sortir de sa mauvaise passe.
Mais ça, du coup, je ne savais pas qu'il avait fondé aussi tard, parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'image des sociétés qui sont créées par des jeunes. Là, Huawei, ça a été créé, il avait 43 ans. Quoi.
Oui, alors c'est vrai que dans son cas, de toute façon, il n'aurait pas pu créer une entreprise jeune, puisque quand il était jeune, c'était interdit ou en tout cas très compliqué de créer des entreprises en Chine. Donc il ne pouvait devenir entrepreneur que plus tard. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que lui s'est lancé très tard et qu'il a quand même très bien réussi.
Donc les débuts de la société, tu l'as dit, ils sont modestes. Il va essayer un peu plein de choses.
Voilà, il vend du matériel électronique, puisque lui, il a une formation d'ingénieur. Et bon, alors ça marche pas très bien, il essaie de vendre plusieurs produits sans que ça prenne vraiment, et le produit qui va commencer à marcher, c'est les commutateurs téléphoniques, donc en gros ces appareils qui permettent d'orienter les appels en fonction du numéro que vous faites, qui envoie l'appel sur telle ou telle ligne.
Qui sont dans les sociétés, c'est les sortes d'ancêtres des standards qu'on peut voir maintenant.
Voilà, c'est une sorte d'ancêtre des standards qui permettent de réguler et d'orienter les appels, donc c'est un peu toute l'infrastructure télécom qu'on voit pas au quotidien, mais sans laquelle ça ne pourrait pas marcher. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque en Chine, il y a à peu près 1% des gens qui ont le téléphone. Donc il y a un marché énorme à prendre et il constate qu'il y a une forte demande et donc il va s'orienter dans le commerce de commutateurs.
De la téléphonie, mais il ne veut pas seulement vendre, parce que là, ce qu'il fait, c'est qu'il revend des produits d'autres constructeurs. Il décide de produire et de vendre.
Oui, donc au début, son idée, c'est d'être uniquement vendeur. Et comme tu le dis, il se rend compte qu'en fait, il y a une très forte demande et que les fournisseurs n'arrivent plus à suivre. Et donc, il se dit, bah, pourquoi moi, je n'apporterai pas des composants et je ne fabriquerai pas mes propres commutateurs. Donc, c'est ce qu'il fait. Il commence, donc c'est de manière... totalement artisanal. Au début, c'est un petit garage, il a quelques dizaines d'employés, et il fabrique des produits bas de gamme ou entrée de gamme très peu chers, un peu entre guillemets à la chinoise, ou l'image qu'on peut avoir de l'industrie chinoise. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il monte en gamme. Donc il commence tout au début de l'échelle, et petit à petit, tous ses gains, il les réinvestit en recherche-développement, il s'agrandit, il innove, et petit à petit, il monte en gamme, il fait des produits de plus en plus complexes. Et dès le début ou fin des années 90, il commence à pouvoir proposer des produits qui concurrencent les grandes références mondiales comme Ericsson, Alcatel et autres. Et donc en quelques années, il va vraiment rattraper son retard technologique sur les meilleurs mondiaux.
Donc tu l'as dit, hein, il réinvestit tout ce qu'il gagne au début. Donc la survie de la société, elle est un peu précaire malgré le succès.
Oui, bah c'est le problème des sociétés en forte croissance, c'est qu'en fait, elles investissent énormément, elles ont d'énormes besoins de trésorerie, des besoins en fonds de roulement, et donc c'est une société qui est toujours au bord du gouffre. Il suffirait d'un contrat qui se passe mal pour que la société plonge. Donc il y a une prise de risque qui est très forte. Des fois, il ne peut même plus payer ses salariés, il les paye en actions, quoi, soit en retard, soit il leur donne un peu des actions de la société pour les payer. Donc c'est une stratégie qui est très risquée, assez audacieuse, mais en même temps, il n'avait pas énormément le choix, parce qu'il fallait qu'il rattrape, qu'il comble son retard technologique, donc il fallait qu'il progresse, et la seule façon, c'était de foncer, quitte à prendre des risques, quitte à se planter, mais bon, lui a réussi en l'occurrence.
Un autre axe de développement pour lui, c'est tout basé sur le service client. Il se concentre vraiment dessus et sur le développement évidemment de nouveaux produits. Mais pour lui, ce qui est important, c'est le service client. Il va couper tout ce qui est inutile à côté.
Oui, alors c'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas du tout le luxe et le superflu. Donc il est hors de question de dépenser de l'argent dans des beaux locaux, dans de la spéculation immobilière, dans des voitures de luxe ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un d'extrêmement frugal, pour lui comme pour ses salariés. Il avait développé ce qu'on appelait la culture du matelas. C'est-à-dire que les salariés, y compris lui-même, avaient leur matelas au bureau ou dans l'usine. Comme
on
ça.
Comprend ce que ça veut
voilà,
dire.
Il faisait un petit somme et puis il retournait bosser. Et effectivement, tout est investi dans la R&D et dans le service client.
D'ailleurs, il se l'appliquait à lui-même.
Ah oui, cette exigence énorme qu'il avait envers ses salariés, il l'avait aussi envers lui-même. C'est un bourreau de travail. Et donc, grâce à ses efforts et à cette frugalité, tous les moyens de l'entreprise sont mis au service de la qualité du produit et du service client. Au début, il avait une seule voiture et la voiture était utilisée pour aller dépanner les clients. Et puis lui, il rentrait à pied chez lui, il faisait ses trajets à pied, c'était pas un problème. Mais il fallait avant tout se privilégier la satisfaction du client.
Donc des cadences de travail complètement infernales, des salaires pas très gros. Et pourtant, il arrive à recruter des jeunes ingénieurs.
Oui, il arrive à recruter parce qu'il propose des défis stimulants, il propose de travailler sur des nouvelles technologies et il propose aussi potentiellement de progresser dans la hiérarchie sociale, dans la hiérarchie de l'entreprise, puisque lui c'est vraiment un pragmatique, hein. Il ne s'agit pas d'embaucher les fils de tel ou tel grand ponte du parti, c'est au mérite, les gens qui sont bons, d'où qu'ils viennent, s'ils font leur preuve, ils peuvent progresser dans l'entreprise, donc... Il y a une forme de méritocratie qui attire tout un tas de jeunes diplômés chinois d'origine modeste et qui sentent qu'ils ont une carte à jouer dans cette entreprise. Et de toute façon, en Chine à l'époque, je dirais, on travaillait beaucoup pour un salaire pas très élevé n'importe où. Donc c'était vrai chez Huawei, c'était probablement vrai aussi chez la plupart des concurrents.
Il a eu l'idée quand même de mettre en place un système d'intéressement pour ses salariés, pour les retenir,
oui,
un peu.
Notamment, il donnait une partie de la rémunération en actions. Alors des fois, c'est parce qu'il avait tout simplement pas assez de cash pour payer les salaires, donc il donnait des actions en échange. Et aussi, le fait de donner des actions, c'est un symbole pour les salariés. Ça veut dire que si l'entreprise se développe et fait des profits, eux pourront aussi bénéficier de ces profits, des plus-values sur les actions, des dividendes, etc. Donc c'est une incitation aussi à travailler et à faire développer l'entreprise.
Donc tu l'as dit au début, c'était plutôt un fabricant de seconde catégorie. Et petit à petit, il arrive à s'imposer en Chine avec succès dans le monde de la téléphonie.
Oui, donc il devient en fait en une dizaine d'années un constructeur, on va dire, à l'égal des références internationales de Siemens, Ericsson et autres. Et après avoir pris une part dominante sur le marché chinois, il s'attaque à l'international, et notamment à l'Afrique, qui était un continent assez délaissé par les... on va dire les grands noms de l'électronique mondiale qui se disaient bon c'est un petit marché, est-ce qu'ils s'y intéressaient pas trop, donc il s'attaque à l'Afrique et puis ensuite au monde entier et ça devient vraiment un des plus gros fabricants de produits électroniques mondiaux dès le début des années 2000 en fait.
Et il n'hésite pas à casser les prix.
Oui, alors c'est ce qu'il appelle la culture du loup. C'est une culture assez agressive où en fait il faut prendre des parts de marché. Il ne s'agit pas d'avoir des bonnes relations avec les autres acteurs. Il faut juste prendre le marché. Donc on casse les prix. Il y a des cas où il proposait des prix 10 fois inférieurs à la concurrence. Donc pour lui, c'est une stratégie assez agressive où il faut à tout prix grandir. Vu qu'il était plus petit que les autres, et il s'est dit il faut que j'atteigne une taille critique. Il faut que je grandisse. Et il était prêt à tout pour ça, y compris à casser les prix et y compris à se serrer la ceinture pendant des années.
Et ça a amené évidemment des controverses parce qu'il a commencé un peu à être international et donc du coup on l'a un peu accusé notamment de copie.
Oui, alors on l'accusait de deux choses. Donc d'une part, de prendre un petit peu les brevets des voisins. Donc il y a eu plusieurs procès depuis une vingtaine d'années. Il serait long à tous lister. Et on l'a aussi accusé, vu qu'il gère l'infrastructure des réseaux de communication, on l'a soupçonné de permettre à l'armée ou au gouvernement chinois, surtout que lui est un ancien militaire, donc ça renforce un peu ce soupçon-là, d'espionner ou de prendre des données au profit d'entreprises chinoises ou du gouvernement chinois. Donc c'est vrai que Huawei est une entreprise un petit peu sulfureuse en ce sens-là, au sens où... On la soupçonne. Alors, à tort à raison, c'est assez difficile pour nous, en tout cas, qui voyons ça d'assez loin, qui ne sommes pas forcément spécialistes de sécurité informatique, c'est assez difficile de démêler le vrai du faux. Mais on pense par exemple à Donald Trump, qui avait été très virulent contre Huawei, qui avait bloqué, par exemple, les applications
Google
sur les smartphones Huawei. Et même en France, hein, ou ailleurs en Europe, quand Huawei postule à des contrats pour déployer des infrastructures 5G, les gouvernements sont souvent assez réticents parce qu'ils se disent, est-ce que derrière Huawei il n'y a pas l'oreille en fait discrète du gouvernement chinois qui va pomper les données ou écouter nos conversations?
En tout cas, là, quand il commence à bien fonctionner dans le monde de la téléphonie, on est toujours dans le monde des commutateurs, il faut dire que le succès ne lui monte pas à la tête.
Oui, alors Ren Zhengfei, c'est jamais quelqu'un qui a pris la grosse tête au sens où il s'est mis à flamber, il s'est mis à faire le mariole dans les journaux. Il a pas du tout le côté bling bling. Il cherche pas à se mettre en avant. C'est vraiment un ingénieur, un besogneux, un discret qui veut que son entreprise réussisse. Mais disons la réussite matérielle ou la notoriété médiatique, c'est pas vraiment ça qui l'intéresse. Et il investit tout son argent, il le réinvestit dans l'entreprise pour la faire croître. Il a vraiment une assaise, disons, dans son travail.
Il reste intraitable avec ses salariés.
Alors ça, oui, il est intraitable avec lui-même et avec ses salariés. On pense notamment à un épisode assez cocasse où il avait viré plusieurs milliers de ses salariés. Il les avait repris juste après, mais seulement pas forcément au même poste. Parce qu'il trouvait qu'il y avait des cadres qui étaient là depuis quelques années et
qui étaient un peu en pantoufles.
Voilà, qui étaient un peu en train de prendre la poussière et de se la couler douce. Et ça lui plaisait pas du tout. Et donc il a viré tout le monde. Il a poussé probablement une bonne engueulade. Et il a repris les gens. Mais certains, il les a fait baisser dans l'échelle pour leur dire, bon, si vous voulez remonter, faut vous remuer. Donc c'était des pratiques qui seraient pas envisageables en France au vu du droit du travail chez nous. Mais lui, ça lui pose aucun scrupule. Il faut que son entreprise progresse et il est hors de question qu'un cadre ou un ingénieur, même s'il a un peu de bouteille, commence à se la couler douce ou commence à considérer que sa position lui est acquise. Il faut vraiment se battre au quotidien chez Huawei pour conserver sa place.
Et donc Huawei, c'est une société qui fonctionne vraiment bien dans le monde de la téléphonie et pourtant, elle est toujours inconnue du grand public à cette époque et il faut qu'elle explose en se lançant dans un nouveau marché.
Oui, donc jusque tard, hein, Huawei ne faisait que des produits donc sur l'infrastructure télécom. On s'est mis à la connaître quand elle a fait des smartphones et ça a très bien marché. Ça a été un développement fulgurant. En 2019, c'est devenu le deuxième fabricant de smartphones au monde, derrière Samsung, mais devant Apple. Et c'est là que le grand public s'est mis à connaître Huawei. Je veux dire, avant, ni toi ni moi, Michael, je pense qu'on avait entendu parler de Huawei. C'est à ce moment-là qu'on a entendu parler de l'entreprise. Et c'est aussi à ce moment-là que les critiques sur un potentiel espionnage ou utilisation des données, détournement des données, écoute des conversations, etc., a pris aussi de l'ampleur, puisque tout le monde utilisait à la fois, beaucoup de gens, utilisaient à la fois les smartphones Huawei et l'infrastructure télécom Huawei qu'il y avait derrière.
Et donc du coup un blocage fait par les États-Unis, notamment Donald Trump, ce qui entraîne derrière que la société a un peu moins de force.
Oui, ça a quand même porté un coup à la société, à son image, à son développement. Alors, il y a eu tout un tas d'affaires, de scandales, d'accusations. Alors, Ren Zhengfei, évidemment, se défend et dit que lui n'a rien fait de mal et que, en fait, les Américains, les Occidentaux sont jaloux de son succès et sont jaloux de voir que ce petit poussé, en quelques années, leur a pris toutes ses parts de marché. C'est très dur de savoir, évidemment, le vrai du faux. On peut penser à l'épisode au Canada où la fille de Ren Zhengfei, Meng Wanzhou, que je ne suis pas sûr de bien prononcer, mais qui était devenue la numéro 2 de Huawei, a été arrêtée puisque les États-Unis ont demandé au Canada de l'arrêter parce qu'ils soupçonnaient des espionnages qui a entraîné une crise diplomatique entre le Canada et la Chine. C'est vraiment une... disons que c'est un, une brouille qui va au-delà de Huawei. En fait, c'est vraiment une brouille entre notamment les États-Unis, mais pas que, et la Chine sur le respect de la propriété intellectuelle, sur l'espionnage, le respect de la propriété de la vie privée, etc. Donc ça va au-delà, je dirais, de la simple entreprise.
En tout cas, hein, tu l'as dit, les États-Unis ont fait une sorte de boycott avec les produits Huawei. Huawei n'a plus le droit d'utiliser le système Android. Du coup, ils utilisent d'autres systèmes. Ils créent leur propre système d'exploitation. Ce qui veut dire que, évidemment, les épisodes ne sont pas terminés. L'histoire ne fait que commencer presque.
Non, Huawei a été touché, mais pas coulé. Alors, c'est difficile de connaître précisément l'état de Huawei parce que c'est une entreprise qui n'est pas cotée en bourse. Donc, qui n'a beaucoup moins d'obligations de diffusion d'informations. Donc, c'est un groupe, en fait, assez secret. On sait que toutes ces boycotts ont impacté l'entreprise, mais elle n'est certainement pas coulée, c'est encore un très grand groupe. Et je dirais, la bataille, on peut dire, entre Huawei et les concurrents occidentaux est loin d'être gagnée pour les occidentaux. Il faudra attendre encore quelques décennies pour voir comment les choses vont évoluer.
Ren Zhengfei est donc l'image de l'entrepreneur discret qui a su avec patience et détermination s'imposer sur un marché très concurrentiel. On retiendra évidemment qu'il nous a prouvé qu'il faut savoir parfois attendre son heure. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Alors évidemment, je vous rappelle que tous nos épisodes sont en écoute sur CDI Podcast. Vous pouvez aussi les écouter sur les mobiles. Hein. Si vous avez un Huawei ou une autre marque, ça marche. Et évidemment, sur toutes les plateformes audio. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait. Et d'ici là, bonne écoute. À bientôt.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.